Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est à mon tour! Fait que moi, je vous amène une intro ce matin, une introduction au message, parce que ça va parler de la guérison du paralytique. Fait que je vais vous le lire pour ceux qui, des fois, ne savent pas trop l'histoire. Ben, moi, je suis correct pour le lire, c'est juste pour l'image, mais non, c'est correct. Bon. Fait que c'est dans Jean 5, de 1 à 18. Non, de 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il est monté là pour une fête. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on peut parler de ça? Le gars, ça fait 38 ans qu'il est paralytique, qu'il est couché à terre. Mettons qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas rien. Il y avait quand même la foi qu'il pouvait être guéri parce qu'il se rendait quand même à cette piscine-là de temps en temps. Jésus, il s'est rendu là pour une fête juive. Là. Je ne suis pas capable de dire c'est quelle fête. Là. Il y en a qui pensent que c'est la fête du Pourim. Il y en a qui disent que c'est la Pâque, là, mais c'est comme pas si important que ça de savoir c'était quoi la fête. Là. Puis Jésus, quand il demande « Tu veux-tu être guéri? » Il demande pas « Est-ce que tu as la foi? Tu veux-tu? Est-ce que tu crois? » Lui, il demande juste « Est-ce que tu veux être guéri? » Comme si ce serait lui qui le prendrait, qui l'enverrait dans l'eau. Puis Jésus, il n'a pas dit tout de suite qui est-ce qu'il était. Il l'a juste guéri, puis il est parti. Puis en plus, Jésus, ben, il devait seulement savoir que le sabbat, c'était pas comme... tu n'avais pas le droit de rien faire. Puis il demande à l'homme de prendre son lit, puis de partir avec. C'est sûr qu'il savait qu'il se passait de quoi avec ça. Puis à noter que le paralytique, il a été guéri instantanément. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans un hôpital, ça? Quelqu'un que ça fait 38 ans qu'il ne marche pas, là? Est-ce qu'il se lève debout puis il marche? Fait que il s'est passé de quoi là de vraiment grandiose. Il a régénéré ses muscles parce que je sais que quelqu'un qui marche pas juste pendant 2 mois, il faut qu'il suive une réadaptation puis tout, là. Puis l'homme, ben quand il a su que c'était Jésus, ben là, il a dit, c'est lui qui m'a dit de faire ça. C'est comme si que... Parlez-moi pas de ça, là. Vous irez le voir, lui, là. Mais il savait pas tout de suite que c'était lui. Mais quand il l'a su, c'est ça qu'il a fait. Dans Jean 5, 14, ça a dit qu'il était rendu dans le temple, fait qu'il devait se préparer pour la fête juive, là, qui s'en venait, là. Fait que c'est ça, quand il a découvert que c'était Jésus, il est allé tout de suite voir les autres pour leur dire c'est lui. Parce que pour lui, c'était comme bien correct, là, de faire ça de même, là. Fait que la guérison le jour du sabbat, les Juifs, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de guérir le jour du sabbat. Mais en fait, la loi de Moïse, elle ne parlait pas de ça. C'était leur loi à eux autres qui s'était faite, leurs interprétations de la loi qui faisaient ça. Parce que tu avais le droit de guérir le jour du sabbat, juste s'il était en danger de mort, sinon tu n'avais pas le droit, selon eux autres. Mais on s'entend que c'est un petit peu niaiseux. En tout cas, c'est ça, ça ne visait pas en danger. Puis dans Jean 5, 17, tu sais, parce que l'autre, il demande comment ça que tu fais ça, puis blablabla. Là, lui, il dit, mon père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Ça les forge bien gros. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr que nous autres, on parle souvent des Juifs là, dans la Bible. Là. Ben, il y avait d'autres religions, il y avait plein de sectes, il y avait plein d'affaires. Mais les Juifs, eux autres, qu'est-ce qui était leur croyance à eux autres? C'est que dans une famille, parce que pour toutes les autres, le fils, il est inférieur au père. T'sais, le père, il est plus vieux, il a plus de sagesse et tout. Mais pour eux autres, le premier-né, il était égal au père. Puis Jésus, lui, il disait pas notre père, il disait mon père. Puis pour eux autres, quand tu dis que Dieu, il est ton père, qu'il est mon père, ça veut dire que je suis son fils. Fait que lui, il se mettait égal à Dieu en disant ça. Puis eux autres, ça les fâchait bien gros. Fait que... Comme exemple que je pourrais donner à ce qui s'est passé là, mettons que Sam dirait, hey, moi, Ben, là, je suis fort, check ça. Puis là, il pogne le pick-up à Pierre, puis il tasse de 3 pieds. Puis là, moi, c'est comme si que je dirais, plutôt que de dire que pas mal fort, là, je dirais checker le pick-up. Est-ce que t'as coffré le bumper? T'as-tu graffiné la peinture? Ça, c'est des affaires. C'est comme pas bien ben logique, mais. Les Juifs faisaient ça. Puis, ensuite de ça, ben, le reste du. Pas le chapitre au complet, mais aller jusqu'à 28-29. Là, Jésus, il leur explique qui est vraiment en profondeur. Puis, il lui dit qui est-ce qui est, puis que Dieu, c'est son Père. Puis, Jésus, il lâche pas le morceau, comme on dit. Il continue à affirmer qui il est, même s'il y a beaucoup de dangers. Ben, il sait c'est quoi qui s'en vient après, là, dans ce cas. C'est ça que je voulais vous apporter en matin pour vous faire comprendre un peu le contexte là, de ce qui s'est passé là. Puis, il faut céder la parole à Jean-Sébastien pour la suite.
Benoît, pour cette introduction, nous faisons ensemble les évangiles pendant 10 ans de temps. Non, c'est parce qu'il y a tellement de stock qu'on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit avec les évangiles. C'est tellement précieux. On peut voir, ben d'abord, merci d'être là tout le monde. Merci à Sonia Samuel d'avoir venu honorer Bien, l'invitation qu'on vous a faite hier soir, c'était vraiment le fun de souper avec vous hier, puis d'apprendre à vous connaître davantage. Puis bienvenue Michel aussi, que j'avais déjà vu au baptême. Puis, je suis content de voir aussi chacun d'entre nous. Et là, je ne l'appellerai pas papa à Guylaine, mais je vais l'appeler Roland. Là, j'ai demandé son prénom, parce que je l'appelle toujours le papa à Guylaine. Donc, nous vous battons, je suis sûr, ici à Saint-Michel, par rapport à WVI, je suis sûr qu'on est plus que vous autres. C'est une blague. En passant, j'aimerais ça remercier les gens de l'église à WVI qui ont accepté, ou en tout cas qui consentent, à être à distance, comme vous l'êtes à chaque dimanche. Là, c'est à leur tour. Donc, merci de vous être déplacés. Peut-être que vous saviez que vous regardiez l'église sur grand écran, puis vous avez dit, ah, je pourrais l'écouter de chez nous. Non, je vais aller voir mes frères à l'église, mes sœurs à l'église, puis vous l'avez fait. Merci aussi à ceux qui sont dans le ministère qui rendent ça possible. Merci Pierre pour arriver à 9h ce matin pour placer ça avec Ben. Merci Ben d'être là. Merci d'avoir conduit pour moi, là. Content de partager le rêve avec toi.
OK.
OK, donc, la question que Jésus a posée au paralytique, c'est « Est-ce que tu aimerais que ça aille mieux? » Vous avez dans vos Bibles « Est-ce que tu veux être guéri? » Mais dans l'original, c'est en anglais, c'est mieux traduit « Do you want to be made whole? » Tu veux-tu être restauré, ramené à neuf? Tu veux-tu être... Tu sais, une personne là, qui est handicapée pendant 38 ans là, puis qu'il faut qu'il fasse changer sa couche par quelqu'un d'autre, là? Hein, vous savez, hein, quand on travaille dans les hôpitaux, ceux qui ne peuvent pas se mobiliser, tout ça, là, des fois, il y a une genre de frustration. De dire, j'aime pas ça qu'on aille me jouer dans les parties intimes pour enlever le caca. Puis tout ça, il y a comme une genre de j'aimerais tellement ça le faire pour moi. Cette personne-là ne peut pas se mobiliser tout seul, elle peut pas aller à l'épicerie, elle peut pas faire des loisirs comme les autres. Il y a quelqu'un qui a fait un défi dernièrement à Mont Offert, ça s'appelait le défi de l'Everest, puis la personne, les gens pouvaient aller jusqu'à 19 fois, monter, descendre le Mont Everest. Et le défi était de prendre une personne handicapée sur eux et le porter à plusieurs. Donc, certains allaient faire juste une remontée, d'autres allaient en faire deux. Mais veux-tu aller mieux? Tu poses la question à cette personne-là qui est en chaise roulante, qui est handicapée, « Veux-tu aller mieux? » Je suis sûr qu'elle pense pas juste à son handicap, elle pense à tout le reste. Toute l'autonomie qu'elle va regagner, toutes les choses qu'elle va pouvoir faire d'elle-même. Puis la question que Dieu me pose à moi aussi aujourd'hui, c'est « T'aimerais-tu que ça aille mieux? » Puis moi, depuis 40 ans, quand les gens me demandent comment je vais, c'est quoi je leur réponds?
La misère à dormir.
La misère à dormir. Hey, Jean-Sébastien, es-tu fatigué dans nos réunions de prière? Il parle toujours de dormir. Est-ce que tu voudrais que ça aille mieux? Ah, Seigneur, oui, j'aimerais ça dormir. J'aimerais ça juste dormir. Mes jambes me réveillent 23 fois à l'heure et je n'atteins pas le sommeil profond. Et on nous dit que c'est une des maladies morbides. C'est-à-dire que si tu dors pas, tu rêves pas. Si tu rêves pas, tu es fou. Parce que la tête, elle a besoin de rêver pour classer les émotions qui ont été vécues durant la journée, réparer le passé, puis rendre la vie comme... Alors, pour moi, depuis l'âge de 40 ans, ça a basculé au niveau du sommeil. Peut-être que j'avais ces problèmes-là depuis plus jeune. Mais là, on m'a amené pour me brancher dans un hôpital. J'ai dormi là, puis le lendemain, le gars, il dit, « Oublie ça, tu fais pas de l'apnée du sommeil. » Il dit, « C'est pas ta tête, c'est tes pieds. » Fait qu'il dit, « Je vais te donner des pilules pour assommer ta tête, tes pieds vont arrêter de bouger. » Mais ça ne répare pas le sommeil. Il n'y a aucune pilule sur le marché présentement que quand tu la prends, tu dors mieux. Ça t'assomme, mais ça ne donne pas une capacité à rêver, à te restaurer. Donc, j'ai cherché camomille, valériane, pas de café avant 10 heures, du jus de cerise concentré, n'importe quoi, du yoga, mais pas la méditation reliée au yoga, l'étirement relié à, pour essayer de dire, regarde, respirer, juste comme faire sortir le stress, puis... Ah là là! Puis il faut pas que je dépasse 195 livres, sinon je grossis du nez. Oh, je savais que vous riez, mais en haut de 195 livres, il y a quelque chose qui fait... Puis mes sinus se bloquent, puis je grossis du nez, puis il faut que je maigrisse du nez. Fait que je me mets sur un poids à temps. Ah là là! Donc, peut-être vous vous identifiez à moi. Si vous avez plus de 40 ans, les deux sujets de discussion qu'on a, c'est nos vacances, nos loisirs et notre corps. Notre corps. Comment ça va dans notre corps? Pourquoi est-ce qu'on poursuit tellement à être bien? C'est parce qu'il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi du péché et de la mort qui agit et qui nous amène vers le tombeau. Je pratique le jeûne intermittent, puis on nous dit que ça favorise l'hormone de croissance. Puis cette hormone-là, quand que tu en produis, tu retardes ton vieillissement. Puis là, je commence à me sentir bien quand je fais le jeûne, puis admettons que je vais faire du jogging, puis je vais faire de l'entraînement. Je me donne comme une jeunesse. Puis là, je suis plus pépé, je suis plus présent. Ça. On veut repousser la mort, mais éventuellement, on va mourir. Puis si vous avez une maladie, puis Dieu vous guérit, vous allez être malade, puis vous allez encore mourir. C'est rare, mais il y en a qui tombent. Tu sais, il marche, il y en a, je ne sais pas si c'est une personne de l'Église, son père est mort, son grand-père est mort. Pas de maladie, rien, juste plus de lumière, plus d'image, plus de son. Mais tu sais, c'est une exception. Mais quand même, il est mort pareil, il y a quelque chose. T'sais. C'est pas parce qu'il n'a rien ressenti, mais chacun d'entre nous, on lutte contre une gravité dans notre vie. On essaie de rester debout dans une gravité qui nous attire vers le bas. On est attiré vers la tombe et nous allons tous comparaître devant Dieu pour faire rendre compte de ce qu'on va avoir vécu sur la terre. Fait que la tombeau nous attire, puis nous autres, on résiste. Et c'est pas mauvais de vouloir vivre, de vouloir être bien. Puis la question que Jésus pose à cet homme-là, « Veux-tu aller mieux? » Je dis, si. On pourrait tous aller à l'hôpital, voir quelqu'un qui est complètement là sur son lit, là, qui n'a rien à faire. On pourrait tous lui poser la question, « Veux-tu aller mieux? » Mais on ne pourrait pas tous lui dire de prendre son lit et de marcher. Ma réponse au Seigneur, « Veux-tu aller mieux? » C'est oui. Puis j'espère que dans votre cœur puis dans votre tête, vous dites, « Si le Seigneur me pose la question, moi aussi j'ai le goût de dire que j'ai le goût d'être heureux, j'ai le goût d'être bien. Job, y avait-tu le goût que ça aille bien? Ses enfants sont tous morts en une seule nuit. Il était touché par le deuil, la maladie. Puis en plus, il y avait des amis moralisateurs. Il a survécu à ça. Ses amis moralisateurs lui disaient que s'il souffrait, c'est parce qu'il y avait du péché dans sa vie. Là, il a survécu à ça, puis il a dit, moi là, Seigneur, t'as donné. J'ai eu des belles années. J'ai profité de mes enfants, on a une belle relation, je les ai perdus, tu les as donnés, tu les as repris, que ton nom soit béni. Je veux être comme Job puis dire, sais-tu quoi, je vais vieillir à un moment donné, je pourrais plus me mobiliser peut-être, mais je vais toujours vouloir aller mieux dans ma tête. Parce que comme Stéphane me disait, Stéphane qui a survécu à un cancer, il dit, il y a des gens qui sont très malades, puis ça va bien dans leur tête. Puis il y en a qui sont très en santé, ça va très mal dans leur tête. Et des fois, c'est une maladie. Des fois, on a des chimiques qu'on ne reçoit pas dans notre cerveau. Tu sais, c'est pas juste une question de pensée positive. Des fois, on a des handicaps au niveau du brain, du cerveau, puis on n'a pas les produits chimiques. Comme quelqu'un n'a pas son insuline, tu sais. Je veux être capable d'être sain dans ma tête, peu importe. Mon père, présentement, il est rentré d'urgence vendredi. Il me posait la question, qu'est-ce que je faisais en fin de semaine? Je me suis engagé à être avec vous. Fait qu'on va être ensemble aujourd'hui. Mon cœur est là-bas. Mon cœur est ici aussi, mais... Mon père veut aller mieux. Il est paralysé de la gorge, de la luette. Il ne peut pas avaler sa propre salive. Il doit prendre un respirateur. Ben, il va mourir bientôt, probablement. Son cœur bat à 30 pulsations. Pas tout le temps, mais de longues périodes. Il n'y a pas d'énergie. Il pense qu'il lève la jambe, mais il ne l'a pas levé la jambe. Il tombe à terre. Tu sais, des choses comme ça. Puis je parlais avec son épouse, puis elle a dit, là, je vais parler aux spécialistes, puis je vais leur dire de me ramener. Là. Parce que c'est pas mon Michel qui m'ont renvoyé depuis les 30 quelques jours d'hospitalisation. Il a été hospitalisé pendant 25 jours, puis, mais avant, il avait été hospitalisé plusieurs jours. Mais quand j'étais revenu au baptême, je pense qu'il est encore là. Il est encore là. Hein. Donc, ses jambes-là, vous voyez mon avant-bras ici? Là? Ça ressemble à ça. J'ai dit, père, je te flatte les jambes, j'ai peur de te casser. C'est un gars de 6 pieds 2, un colosse. Ramenez-le-moi. Est-ce que tu veux aller mieux? La question est très pertinente. Il y a un ami à moi que vendredi, il a tenté à ses jours. Parce que dans sa santé, il ne voit pas le jour que ça va aller mieux. Il est rentré à 1h, on a appelé la famille à 5h. Là, il a été lavé, il a reçu ses lavements pour libérer l'estomac de toutes ces substances-là. Et je ne pense pas qu'il voulait mourir. Lorsque je suis appelé dans une chambre de quelqu'un qui a voulu se suicider, je leur pose toujours la question. Est-ce que tu voulais mourir ou tu voulais vivre mieux? Puis les gens me répondent, je voulais vivre mieux. Puis je me rappelle d'une jeune femme, j'ai pensé à une jeune femme, justement, j'y avais posé cette question-là, puis aujourd'hui, elle marche avec Dieu, elle a un mari, elle a des enfants. Est-ce que vous voulez aller mieux? Dans Romains 8, 22, ça dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. » Tu sais, une femme, là, quand elle accouche, elle est sur le bord des contractions, là, puis ça fait mal, là. Eh bien, il y a quelque chose qui la garde. Il y a quelque chose qui la garde. Elle sait qu'elle va avoir un beau petit bébé rose, puis que si ça fend cette affaire-là, si ça fait toutes ces affaires-là, eh bien, elle va avoir un petit bébé rose. Elle a l'espoir que même s'il y a des douleurs, il y aura aussi quelque chose de mieux. Et le passage aujourd'hui, c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur puis Sauveur, et ça va pas bien aller. On comprend pas que dans la lisant les Écritures, ça dit pas que ça va bien aller avec un arc-en-ciel. C'est pas ça que ça dit. Hein? Elle dit, mais après ça, il dit au verset 23, ce n'est pas elle seulement en parlant de la terre qui souffre les douleurs de l'enfantement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On regarde à une fin possible de la terre dans la Bible. Il y a un réchauffement planétaire et on parle aux nouvelles de climat-anxiété. Il y a un nouveau mot. Les climats anxieux sont allés marcher dans les rues. Hein? C'est comme ça qu'on les appelle. Une jeunesse qui dit « Hey, est-ce que vous avez gardé une terre pour nous? » Vous l'avez toute consommée, puis nous, on va vivre avec les cataclysmes puis les événements là, de grande ampleur. La NASA, je disais au souper hier, elle dégage des millions de dollars. On parle de 300 millions de dollars pour tenter de toucher à un astéroïde, pas l'astéroïde lui-même, mais le satellite qui tourne autour pour que, en enlevant 1% de la masse de l'objet qui gravite autour, ce météore-là soit dévié. Pourquoi? Parce que présentement, il y a 25 000 objets identifiés, pas des UFO, mais des objets identifiés qui sont possiblement en direction de notre belle planète, la Terre. Et à un moment donné, tu sais, tu vois ça dans les films, tu dis, les films, ils font ça, essayer de dévier un météorite, puis d'essayer de l'envoyer plus comme, c'est les Américains, essayer de l'envoyer plus vers la Chine, ouais, tu sais. Non, mais, puis là, tu vois tu dis, chaque nation veut pas, parce que si un météore de 450 mètres, un demi-kilomètre, frappait, par exemple, les États-Unis, toute la Californie disparaîtrait de la surface de la Terre, comme ça. Alors, beaucoup de théoriciens disent que le déluge, que nous, on croit être le déluge de Noé, c'est un as qui a frappé la terre, tu sais, puis une poussière, puis là, c'est des sédiments qu'on voit, tu sais. Nous, on sait que c'est, on pense que c'est le déluge plus, mais il y a cette idée-là chez les scientifiques que on vit sur du temps emprunté, ça pourrait arriver, parce que hier, je publiais sur Facebook une poussière cosmique a frappé Saturne d'une grosseur de la Terre, juste la grosseur de la Terre. Et dans l'article, ça disait que les planètes servent de bouclier pour attraper aussi. On est dans la troisième proche du Soleil. On a le bouclier avant nous. Puis on est quand même béni. Tu sais, moi, je pense qu'on ne reçoit pas d'étoiles sur la Terre ou de toutes sortes d'astres parce que Dieu ne veut pas qu'on en reçoive. Parce que Dieu nous aime. Puis non seulement il a ajusté la planète d'une telle manière qu'elle est apte à la vie que tu ne trouves pas ailleurs comme nous autres. Puis elle est tellement finement ajustée que s'il a pensé aussi à ce détail-là. Par contre, dans l'Apocalypse 8, un as va frapper la Terre. Il va falloir le tiers des hommes qui vont mourir, pas juste par l'impact, mais par la corruption de toutes les eaux souterraines. Donc, il va avoir de la noirceur pendant plusieurs jours. Donc, ces choses-là vont arriver. Mais celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ sait que même si la Terre passe au travers de ça, Dieu a préparé des cieux, une terre sur laquelle on va habiter. Donc, on vieillit, notre vieux corps a des capacités qui s'amenuisent, on comprend la faiblesse, puis on dirait que des fois, il y a des gens qui vieillissent puis ils deviennent bornés, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a des orgueilleux qui devenaient humbles. Des gens qui parlaient toujours plus que les autres, qui savaient toujours plus que les autres, là, tes voix vieillir, tes voix flétrir. Je me rappelle de cet homme qui avait tombé du toit parce qu'il arrangeait ses gouttières, puis il a perdu complètement toutes ses capacités. J'allais le voir de dimanche en dimanche. Puis lui, c'est un athée. Il avait 3 livres d'épée dans sa bibliothèque, en français, en anglais. Puis lui, il venait de l'Europe de l'Est, fait que le roumain. Il était tellement orgueilleux, cet homme-là, avant. Puis sa femme, elle me voyait venir le voir à chaque dimanche après l'église. J'allais le voir, puis je lui disais, tu sais, dans la Bible, c'est écrit. Puis là, il disait, oui, mais... Puis il n'était pas capable de s'obstiner. Parce qu'il avait perdu toutes ses références. Le dictionnaire était là, mais les fils étaient coupés. Là, tu sais. J'ai remarqué que cet homme-là, il est devenu humble. Parce que la souffrance, c'est ce qu'elle peut faire aussi. Elle peut nous rendre humbles puis dire, c'est quoi? Je ne l'ai pas tout. Fait que des fois, il y en a qui sont plus humbles. Le paralytique, quel genre de gars que c'était? C'était un gars pas paralytique. Dans le texte original, ça parle d'impuissance. C'est quelqu'un qui avait perdu sa force, qui avait perdu la motricité. Peut-être qu'il y avait des fils de poupée, puis Elon Musk n'était pas encore là pour venir mettre la puce dans le cerveau, puis ils vont faire ça bientôt. Là, ils sont en train d'organiser pour que tu puisses envoyer un influx nerveux, tu vas avoir un émetteur, un récepteur, puis ta jambe va recommencer à bouger. Là. Elon Musk n'était pas encore arrivé pour rétablir cet homme-là. Et cet homme-là, il était impuissant des jambes, tu disais, depuis 38 ans, fait qu'il n'y a pas 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose, puis Jésus lui dit, est-ce que tu veux aller mieux ou est-ce que tu veux être guéri? Donc, l'histoire, ce qui est important quand on lit l'Évangile de Jean, essayez pas de suivre la chronologie. Les experts pensent que c'est dans la deuxième année du Seigneur Jésus, de son ministère, mais si vous regardez les fêtes, ça ferait un ping-pong entre Jérusalem, Galilée, Jérusalem, Galilée, Jérusalem, Galilée. Puis à un moment donné, tu dis, hey, ça n'a pas de sens, il n'a pas fait ça. Tu sais, il n'a pas fait tout à fait ce trajet-là. Donc, suivez pas le trajet dans Jean. Essayez pas de localiser nécessairement la fête, parce que ça pourrait tomber sur une des 3 grandes fêtes à laquelle on était obligé. La semaine prochaine, Jackie va vous parler d'une de ces fêtes-là. C'est le 3e signe miraculeux de l'Évangile de Jean. Et c'est le 2e discours dans l'Évangile de Jean. Il y a 7 signes. 7 discours. Et le but, à chaque fois qu'il y a ces signes et ces discours-là, c'est pour prouver que Jésus, il est qui il dit être. Et si on croit qui il est, on va avoir la vie si on croit en lui. Donc, il y a plusieurs thèmes dans ce passage-là qui reviennent dans l'Évangile de Jean à plusieurs endroits. Il y en a un, c'est la vie. C'est la vie. Il dit au chapitre 1, il dit qu'au commencement était Jésus, là, la parole, et la parole a été faite chair, là, ça parle de Jésus, et c'est écrit « En elle, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, le thème de la vie est repris dans ce passage-là, puis l'intimité avec son Père aussi, tu as dit, il s'est appelé lui-même le Fils unique de Dieu, se faisant lui-même égal au Père. Dans le chapitre 1, tous les grands thèmes de l'Évangile de Jean sont dits dans le prologue, les 18 premiers versets, sont repris un peu comme des ballons de soccer que je mettrais dans la pièce ici, puis je taperais sur le ballon. Je tape sur le ballon de la vie. Je tape sur le ballon de l'intimité entre le Père et le Fils. Je touche le ballon de la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Et là, il y a tous ces ballons-là. Puis dans l'Évangile de Jean, il vient donner des coups de ballon pour que tous les ballons arrivent à la fin, pour qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, puis si on croit en lui, on est la vie en son nom. Et une des choses qu'on doit comprendre de Jésus, c'est qu'il est le Fils unique dans le sein du Père. Au chapitre 1, verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Moi, je l'ai vu. » Ou Jean dit « Celui qui est dans le sein du Père, lui, il l'a vu. » OK, on est à Jérusalem, c'est un festival, tu l'as dit, c'était proche d'une piscine qui s'appelle Bethesda. On va faire afficher une image. Les détracteurs de la Bible ont souvent dit « Hey, il se passe beaucoup de miracles à cette piscine-là, c'est sûrement jamais arrivé parce qu'on ne l'a jamais retrouvé. » Quand Jean a écrit ça, Jérusalem a été mis à feu et à sang. Il y a 1 million de personnes qui ont été tuées en l'an 70. Jean a écrit ça en l'an pas loin de 100, en 90 puis 100. OK? Est-ce qu'on est capable de faire afficher l'image? On va regarder ici pour voir s'il n'y avait pas l'image qu'on pourrait voir. Yes. C'est une grosse piscine, là. Puis on parle de profondeur jusqu'à 13 mètres de profond, là. Fait que c'est quelque chose, là. Les gens ne savent pas trop à quoi ça servait. Certains ont dit que c'était pour aller laver les brebis avant de les amener au temple. Puis c'est avant, c'était en dehors de la ville, mais la ville a été élargie dans cette section-là pour contenir. Donc, c'est une piscine divisée en deux. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 rangées de colonnes. Okay? Et ça, c'est important parce qu'archéologiquement parlant, les gens disaient, la Bible, c'est pas vrai. Il y a une place, une piscine qui s'appelle Bethsaïda avec 5 colonnades. Une colonnade, c'est un arrangement de colonnes en ligne droite. Et on voit que ce sont une piscine, mais divisée en 2 sections. Hein? C'est vraiment spécial parce qu'encore une fois, les détracteurs de la Bible, quand ils voient ça, ben, ils peuvent rien faire d'autre que de dire « Ah! » C'est en 1964 qu'on a été capable de regarder les proportions de ce que ça aurait pu être. Fait que ça, c'est juste une maquette. Là. À cette piscine-là, grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils sont regroupés. C'était probablement un abri contre les intempéries aussi. Peut-être que, tu sais, il y avait tout le côté là, avec les toits. Fait que c'était une place où on pouvait se mettre à l'abri des intempéries. Il y a un passage qui n'est pas dans les manuscrits originaux. Quand c'est écrit, il y a un ange qui venait et qui faisait bouger l'eau. C'est pas dans 2 codex qui sont les plus anciens qu'on a, là, les écrits originaux. Par contre, ça donne une bonne lumière sur le verset quand Jésus dit « Tu veux-tu aller mieux? » Il lui a dit « Ah, il n'y a personne pour me chier dans la piscine. » Fait que le copiste, il s'est dit probablement « Est-ce parce que les lecteurs comprendront pas pourquoi il veut aller se faire pitcher dans l'eau? » Fait que je vais l'écrire. Ça enlève rien que c'est pas écrit, ça dit pas que c'est une falsification, c'est clair que c'est pas dans les manuscrits originaux, mais ça change rien à la signification du texte. Il y avait des païens qui croyaient à des divinités, justement, puis ça, c'est une source souterraine, puis des fois, il y avait des ballonnements, il y avait toutes sortes d'affaires, donc l'eau bougeait, puis certains croyaient qu'il y a un ange qui bougerait les... Puis tu sais, quand une fable que t'as cru assez longtemps, que quand les gens y allaient dans l'eau, quand que ça bougeait, ils étaient guéris. Ben à un moment, tu finis par dire que c'est un fait. Puis c'était toléré par les Juifs, mais c'était pas quelque chose que tu trouves dans la doctrine, là, dans les enseignements judaïques. Là. Donc, ça ajoute peut-être un petit peu de lumière sur les superstitions qui étaient crues dans ce temps-là. Jésus va vers cet homme-là, puis il dit, l'homme, il dit, quand il lui dit « Tu veux-tu être restauré? Tu veux-tu aller mieux? » L'homme lui répond « Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. » Donc, ça veut dire qu'il était seul. Ça veut dire que pour ses petits besoins, pour n'importe quoi, le gars, il se rampait, là, OK? Fait que c'est Jésus qui va vers lui parce qu'il est pas juste en impuissance motrice, il a l'air d'être démuni aussi en termes de communauté ou de gens qui sont autour de lui. Puis Jésus va lui dire, à la réponse de « il n'y a personne pour m'amener », il va lui dire « lève-toi, prends ton lit, puis marche ». Dans l'original, lève-toi, c'est un événement unique, c'est comme fais-le, là. C'est un impératif aoriste. Puis après ça, il dit, et marche, et mets-toi à marcher. Fais l'action, continue de marcher. Donc, fais-le. Mais le gars, comme tu dis, c'est les autres de la peau. Ah. Non seulement il se lève, il prend son lit. Le gars, il fait travailler, je veux dire, puis il fait travailler le jour du sabbat, et là, Jésus sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Jean, il va présenter la plupart de ces cas comme un cas qui est mené en justice. Le crime, les accusations, le discours, la défense. Tu vas voir ça partout dans l'Évangile de Jean parce qu'il y a un tribunal, puis à la fin du tribunal, la question est-ce que Jésus est celui qu'il prétend être? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit de lui qui était? OK. On l'accuse, le chef d'accusation, et sa défense, les discours que Jean a mis. Et c'est exactement ça qu'on retrouve ici. Le gars, il marche, il porte son lit, je veux dire, c'est la fête, là. Je veux dire, laisse faire les graphiques sur le hood, là. Je veux dire, le gars, il vient d'élever un char de 2 tonnes, là, tu sais. Il y a quoi qui s'est passé, là? Puis le jour du sabbat, c'est un jour de festival, l'histoire est glorieuse, il y a de quoi s'émerveiller, et là, il y a un changement abrupt dans l'histoire. Le gars a violé le sabbat des Juifs, mais pas le sabbat de Moïse. Parce que dans le sabbat de Moïse, tu pouvais faire un acte de miséricorde le jour du sabbat. Transporter un objet dans la Mishnah Shabbat 7.2, transporter un objet d'un lieu à un autre était un crime. C'était un péché contre le sabbat. Couper du chevreuil. Hier, c'était samedi? Oui. C'est le jour du sabbat pour les Juifs? Qu'est-ce qu'on a fait dans nos assiettes? On a coupé du chevreuil que Ginette avait chassé. On a péché. On n'a pas péché.
Une chance qu'on n'est plus sur la loi de Moïse.
Une chance qu'on n'est plus sur la loi de Moïse. Donc, l'homme devient, et puis ici, là, j'attire votre attention, l'homme devient l'objet d'une persécution contre les Juifs contre lui. Aujourd'hui, un des commentateurs que je lisais cette semaine, il prenait des photos à Jérusalem le jour du sabbat. Il est venu se faire reprendre par un Juif zélé qui a dit « Hey, t'as pesé sur le bouton de ton appareil, t'as commis un péché parce qu'on est le jour du sabbat. » Fait qu'il y a encore aujourd'hui un zèle pour respecter le jour du repos puis pas faire des œuvres. Et un de ceux-là, c'était « Coupe pas du chevreuil, mais aussi transporte pas un objet d'une place à un autre. » Alors, le gars, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la pression sur soi? Qu'on pense qu'on est coupable de quelque chose? On dit « Va voir mon boss! » C'est mon boss qui m'a demandé de faire ça. Non, mon boss. Si c'est quoi qui arrive en compagnie, on va dire, ben, c'est le boss qui m'a demandé de faire ça, fait que je gère avec. Fait que c'est ça que Jésus a fait. Le gars qui m'a dit de prendre mon lit, c'est pas moi, là, qui marche le jour du sabbat ou qui transporte un objet, c'est celui qui m'a demandé, tu sais. Moi, je fais juste obéir, tu sais. Patte blanche. Le plus possible. Le ton de l'histoire n'est pas doux. Le ton de l'histoire vient de monter en crescendo, puis là, lui, il dit qu'il a juste obéi à celui qui l'a guéri. Il prend la pression qui vient contre lui, l'envoie sur Jésus. Jésus se débrouillera avec ça, la patate chaude n'est pas à lui. L'homme ne veut pas être persécuté, il retourne la responsabilité sur son bienfaiteur et là va commencer une démarche pour retrouver celui qui a guéri cet homme-là. Pas pour dire « Hey, wow! » C'est incroyable, un gars de 38 ans, est-ce qu'on peut croire nous autres aussi en lui? C'est pas pour aller l'adorer qu'ils veulent le savoir, puis si on serait là, on serait assez allumé pour dire « Ouh! » On dirait qu'ils sont pas dans la fête, eux autres-là. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. C'est car Jésus avait disparu de la foule en ce lieu. Il n'est pas rare pour Jésus de disparaître d'un lieu. Quand à Nazareth, dans son ville de naissance, on a voulu le pousser en bas de la montagne, il disparut au milieu d'eux. Car son heure n'était pas venue. Après ça, plus tard, il multiplie des pains pour 5000 personnes. Dans le fond, il dit il s'apprêtait à le faire roi. Et il disparut du milieu d'eux, au chapitre 6, verset 15, et alla prier avec son père. C'était pas le temps d'être roi, c'était pas le temps d'être jeté en bas de la montagne. Puis là, ici, c'était pas le temps d'être retrouvé. Fait que Jésus va se cacher. Il va le retrouver un peu plus tard, il va aller le retrouver sur le lieu du temple un peu plus tard, il va aller parler avec lui, puis ça chauffe, mais Jésus reste quand même, parce que qu'est-ce que ça sert de donner à un boiteux ses jambes s'il ne savait pas aussi qu'il pourrait aller mieux spirituellement? Qu'est-ce que ça sert que de vivre de belles et longues années en santé, être bien dans notre corps, puis périr dans le feu de la géhenne? Cet homme-là a aussi besoin de comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Alors, au verset 14, vous avez dans votre Bible, second, « Depuis, dans la Derby, après ces choses, les festivals pouvaient durer jusqu'à 7 jours. » Fait que nous, on lit ça de façon aplatie. Nous autres, tout se passe le même jour. C'est le même chapitre, c'est le même jour. Et il faut assez faire un effort un peu de gymnastique puis dire, ben c'est peut-être quelques jours après, mais Jésus est allé le retrouver, puis c'est pas le gars qui cherchait Jésus, c'est Jésus qui cherchait le gars. Ça, c'est spécial, encore une fois. Dans aucune place dans le texte, on voit l'homme être reconnaissant, vouloir suivre Jésus ou accepter même de subir de la pression avec lui, puisque Jésus est sûrement le sauveur du monde. Le gars, il fait patte blanche, il essaie de pas se faire condamner pour avoir violé le sabbat. On voit pas que lui cherche vraiment à suivre le Seigneur. Peut-être qu'il le fait, Jean n'en parle pas. Puis là, Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui peut avoir pire que d'être 38 ans à la merci de tout? Qu'est-ce qui peut être pire? Puis est-ce que, parce qu'il est handicapé, il est malade? Parce qu'il est chassé de Dieu, puni de Dieu? Est-ce qu'on peut être malade et puni de Dieu? Oh, vous dites ça, c'est un piège, ça. En anglais, ils disent « catch 22 ». Si je dis oui, il va dire ça. Si je dis non, il va dire ça. Vous êtes sage. Le sage se tait. L'insensé se précipite à parler.
Ah, ben oui.
Si vous dites non, je vais vous dire 1 Corinthiens 11, verset 27, il y a beaucoup de parmi vous de malades et beaucoup sont morts. Pourquoi? À cause du péché, ils l'ont confessé. Si vous dites non, si vous dites oui, Dieu peut punir, je vais vous amener dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3, qui dit qu'il y avait une tour qui était tombée sur 18 personnes, ils étaient tous morts, puis Jésus dit, est-ce qu'il y était des pécheurs plus grands que vous? Et Jésus leur répond, ben non. Ou Hérode est rentré à un moment donné, puis il y avait des sacrificateurs qui étaient en train d'offrir des sacrifices, puis il a tué tous les prêtres. Puis il a mélangé le sang des sacrificateurs avec le sang des offrandes. Tu sais, il a vraiment fait un massacre dans le temple. Jésus dit, est-ce que ces gens-là étaient des pécheurs pires que vous? Jésus dit pas. Il dit non. Mais il dit, si vous ne vous repentez pas, et que vous allez périr également. On va périr, mais on va tous mourir. Jésus, pourquoi tu dis on va périr? Mais c'est qu'on va périr de la deuxième mort. Il y a quelque chose de pire que de mourir de la première mort, c'est de mourir de la deuxième mort. On pourra revenir donc à notre sujet. Est-ce que le gars il est malade parce qu'il a péché? On ne sait pas, mais une chose est certaine, s'il ne se repent pas, il y a quelque chose de pire qui va lui arriver. Qui de mieux placé que le juge de l'univers pour dire qu'il pourrait arriver quelque chose de pire? Est-ce que nous, on peut dire aux gens, il va t'arriver de quoi de pire si tu pêches encore? Non, mais le juge de l'univers, lui, Jésus, il est le juge de l'univers, fait qu'il peut le faire. Ce serait pour vos notes personnelles, mais dans Ézéchiel 18, au verset 20 à 23, c'est écrit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça dit que si une personne est méchante, elle se détourne de sa méchanceté, elle va vivre. C'est vraiment intéressant. Fait que les rabbins, ils avaient cette idée-là. Il n'y a pas de mort sans péché et il n'y a pas de maladie sans iniquité. Ça, c'était Shabbat 55a. Donc, chez les rabbins, c'était clair que tu pêches, que tu vas raccourcir ta vie. Et on voit ça aussi dans Éphésiens 6, ça dit que les enfants doivent honorer leurs parents s'ils veulent vivre des jours heureux, s'ils veulent vivre plus vieux. Fait qu'il y a aussi cette idée que la bénédiction du Seigneur pour avoir une vie longue, elle existe aussi dans le Nouveau Testament, mais c'est pas ça qui est mis en lumière vraiment. Donc Jésus dit, pêche pas. Ouh. Puis dans l'original, je pense que c'est écrit un peu plus tard, mais ouais. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Donc, il y a quelque chose qu'il est en train de faire, le gars. Puis Jésus lui dit, arrête ça, sinon tu vas vivre pire que ce que tu as vécu là avec tes gens. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars? Bon, on va regarder le passage ensemble. Puis moi, je pense que c'est ça qui est le péché pour lui. Je vais dire je pense parce qu'on est obligé quand on n'est pas sûr qu'est-ce que c'est que le texte nous dit. Mais il y a un avertissement là. Puis je vous dis, là, je l'ai enseigné quoi 5-6 fois ce passage-là, puis j'ai jamais vu qu'est-ce que je m'apprête à vous partager. Dans la suite du passage, Jésus va montrer qui est Dieu, puis lui est capable de donner la vie, comme Dieu le Père donne la vie, le Fils aussi peut donner la vie. Puis il va dire aussi qu'il juge. Et en tant que juge, il peut libérer quelqu'un d'une condamnation, il peut aussi condamner quelqu'un à un jugement éternel. Fait que le pire, ça peut être que le gars va avoir un autre handicap ou qu'il va... ou ça pourrait être aussi, et c'est ce que je pense, qu'il va être jugé pour ne pas avoir accepté Christ. C'est-à-dire que le gars, il a pas été guéri parce qu'il a dit, « Hey, moi, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es fils de Dieu, puis je crois que tu es venu pour nous autres, tu es envoyé par Dieu. » Non, il sait même pas c'est qui. Il y a un gars qui est venu, il m'a dit « Lève-toi, marche ». Puis je me suis levé, j'ai marché, j'ai pris mon lit. Il n'a pas cru au Seigneur Jésus. Il a cru à ce qu'il avait dit, bon, ça va. Mais il n'a pas cru à qui Jésus était. Donc, il n'était pas sauvé. Puis Dieu, il ne veut pas juste faire du bien à ceux qui le prient, à ceux qui l'aiment, à ceux qui vont à l'église, à ceux qui cherchent sa face. Il veut faire du bien à tout le monde. À chacun, il dit « Veux-tu aller mieux? » Tu sais? Mais un jour, même si ça va mieux, Est-ce qu'on a pris la bénédiction, la guérison, la restauration, les réponses à nos prières, ou est-ce qu'on a pris le don ou on a pris le Christ? Est-ce qu'on a juste pris les cadeaux du Christ ou on a pris le Christ lui-même? Et là, Jean, il est celui qui parle du péché au singulier. Si c'est le péché que Jean attaque, là, ici, duquel il parle, Jésus dit dans Jean 16, 8, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Et il donne l'explication, il dit « Comment est-ce que le monde pêche? » Bien, le monde pêche parce qu'il ne croit pas en moi. Ce gars-là, quand Jésus est allé le voir, puis il a dit qui il était, puis il lui dit « Ne pêche pas afin qu'il ne t'arrive pire. » Le gars, il a fait quelque chose au verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. What? Je veux dire, tu vois bien qu'ils t'ont accusé, que dès que tu as porté ton lit, là, tu penses quoi? Qu'ils vont faire la fête quand ils vont le trouver? Tu es en train d'aider ceux qui veulent du mal, là, ceux qui cherchent le trouble, tu es en train de les aider à le trouver. Tu as vraiment fait un... Tu veux vraiment pelleter, là. Tu fais pas juste patte blanche, là. T'es en train de causer trouble. Vous, si vous feriez guérir par un homme comme ça, puis vous voyez que les gens qui cherchent le trouble parce que vous portez votre lit, est-ce que vous iriez voir tout de suite ces gens-là? Ou vous iriez voir votre famille, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, pour vous réjouir avec eux? Le gars, il va être tellement certain de ne pas se faire condamner par les leaders juifs que, puis c'est ça qui est nouveau pour moi. Je l'ai traité de con. Je m'en repens. Ma femme a dit, voyons donc, c'est quoi qui t'arrive? Voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai traité de nono.
Ah, c'est moins pire.
Ouais. Ça se dit sur l'enregistrement, ça? Et j'ai été attristé de ça. J'ai été attristé de ça. Parce qu'il a reçu la bénédiction, mais il n'a pas pris position pour celui qui l'avait guéri. Vous savez, il y avait un gars qui était aveugle de naissance, puis les gens, ils n'arrêtaient pas de l'interroger. « T'es-tu vraiment né aveugle? » Là, ils sont allés voir les parents en changeant chapitre 9. « Toi, es-tu vraiment né aveugle? » »« OK, oui, il est né aveugle. » »« Oui, on le sait qu'il est né aveugle. » Puis, « C'est-tu vrai que c'est Jésus qui l'a voir? » On sait qu'il est né aveugle, on est ses parents, mais pour la manière qu'il a commencé à voir, là, ben là, ça, vous lui demandez à lui. Fait que là, la pression retombe sur le gars qui est né aveugle, puis... Il dit, pourquoi? Il dit, vous me reposez la question 2, 3, 4 fois. Il dit, c'est-tu parce que vous voudriez aussi devenir ses disciples? Ça veut dire que lui, il avait accepté d'être son disciple. Il avait décidé de prendre position. Fait que lui, il s'est fait excommunier. Parce que les gens qui étaient menacés de se faire excommunier, puis c'est écrit dans le texte, les parents craignaient de se faire excommunier s'ils donnaient trop de réponses aux Juifs. Alors, les Juifs s'opposent plus au paralytique. Ah, maintenant, ils sont plus... là, c'est comme si la pression qu'il y avait sur le paralytique, elle n'était plus sur le paralytique, elle est maintenant sur Jésus. Et là, on n'attaque plus quelqu'un qui a porté son lit, on attaque quelqu'un qui a guéri le jour du sabbat. Puis le mot pour, vous avez dans vos Bibles, je pense au verset 16, il poursuivait Jésus. Dans le texte, vous avez aussi persécutait, dans les Bibles anglaises, persecute. Mais le vrai mot, tu sais, comme on dit en anglais, prosecute somebody, c'est poursuivre en français. Mais le mot, c'est vraiment ça qui est utilisé. C'est le mot dioko qui veut dire en grec poursuite légale. Alors, ce gars-là, Jésus, il n'est pas nouveau pour les prêtres. Il n'est pas nouveau pour les leaders juifs. Parce que quand c'est écrit, il faisait ces choses-là. J'attire votre attention sur le texte. Il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Pas il a fait cette guérison le jour du sabbat. Il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Puis dans l'original, c'est il avait l'habitude de faire ces choses-là le jour du sabbat. Ça titillait la cédille, ça leur sciait la banane. Il avait le goût de faire quelque chose. Puis là, ils ont dit, dis donc qu'il fait un aveu. Fais un aveu. Fais juste dire c'est qui t'a guéri. Mais eux autres, ils savent tout ça. Il avait l'habitude de faire ça le jour du sabbat. Et eux autres, ce qu'ils font, ils recueillent des... Tu vas-tu le dire? Quand tu vas savoir son nom, tu vas-tu venir faire une déposition? Est-ce que tu vas venir plaider? Fait que ce gars-là, quand il est allé dire, là, il n'est pas allé annoncer la bonne nouvelle. Il est allé compléter qu'est-ce qui manque pour faire un dossier, pour le faire mettre à mort. Okay? Donc, tu dis, oh, pelaire, OK, on le voit pas à première vue dans le texte nécessairement. Alors, le scénario, c'est le crime est démontré. On va y aller comme ça parce que vous êtes en face de moi. Donc, le crime est démontré. le désir de poursuivre en justice et les accusations qui sont levées sont nommées et Jésus commence sa défense. Et là, Jésus va dire, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Là, il y a une raison, c'est qu'ils travaillent le jour du sabbat. Une deuxième raison qui allait s'ajouter, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le crime, faire des choses le jour du sabbat, et deux, avoir une relation unique, être le fils unique dans le sein du Père, qui prétend être égal à Dieu. Et là, il va, écoutez bien, il va dire plein de choses qu'il y a juste Dieu qui peut faire, puis il va se les attribuer à lui. Ah, il va pas dire, espèce de leader corrompu, on a-tu un gouvernement, tu sais, hein? On a, des fois, on aurait raison de le dire, hein? Des fois, on aurait raison. Je ne dis pas que c'est bon de le dire. La Bible a dit d'honorer nos autorités, prier pour eux autres. Si on ne le fait pas, on pêche. Surtout si on se plaint d'eux. Fait que... Il ne dit pas, espèce d'élite corrompue, vous avez changé le sabbat pour quelque chose qui n'est même pas le sabbat. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le Père, il n'obéit pas à votre commandement en passant. Le Père travaille aujourd'hui. Le sabbat, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient l'univers... Il fait passer les astres d'un espace à l'autre. Il les fait bouger d'une place à l'autre. Tout bouge dans l'univers, puis c'est Dieu qui le fait bouger. Puis ça, les rabbins, ils ne peuvent pas s'obstiner contre ça. Fait que Dieu est le transgresseur du sabbat. Mais il ne dit pas Dieu transgresse le sabbat. Il fait juste dire le Père travaille. Il fait travailler. Il les fait travailler. Il maintient l'univers. Les corps célestes se déplacent d'un endroit à l'autre. Et même le jour du sabbat, Jésus, il est un apprenti du Père. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'Évangile de Jean. Il faut comprendre que Jésus, il n'est pas le fils de Joseph. Il est le fils de Dieu. C'est afin que vous croyiez qu'il est le fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Pour vos notes personnelles, dans Marc 6, 3, « Hey, c'est le fils du charpentier. » Dans Matthieu 13, 55, « C'est pas le fils du charpentier. » Dans Jean 6, 42, il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? » Ben c'est ça. Pour qu'une personne puisse recevoir la vie éternelle, elle doit reconnaître que Jésus n'est pas né d'homme, il est né de Marie, mais que c'est Dieu qui l'a enfanté au travers de Marie. Bientôt, on va fêter Noël, la bonne nouvelle de l'incarnation de Dieu en la Marie, dans notre monde. Et Jean, c'est important qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Jésus, il parle souvent de son Père. « Je viens de mon Père, celui qui m'a envoyé. Le pain du ciel que vous avez mangé dans le désert, ils sont tous morts. Mais ceux qui vont manger du pain que je vais leur donner, parce que moi aussi, je suis descendu du ciel, puis je vais vraiment donner mon corps. Puis si vous mangez cet aliment-là, vous allez aussi vivre éternellement. » Jean, il va parler souvent qu'il arrive du ciel, puis que c'est Dieu qui est son Père. Et dans ce texte-là, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire égal. Puis regardez bien ce qu'il va faire. Le Père ne respecte pas le sabbat, moi non plus. Regardez bien ça. Il dit, le Père agit, alors le Fils agit. Le Père a les mêmes droits et les mêmes le Fils a les mêmes droits et les mêmes privilèges que le Père. Dieu a donné la vie. Il a soufflé, puis il a eu la vie. Ben, Dieu a pris cet homme-là, puis il a mis la vie dans les jambes de cet homme-là. Donc, si le Père donne la vie... Ah, y a-t-il des enfants qui naissent le jour du sabbat ou il attend au dimanche pour naître? Hey, madame, attendez un petit peu, là. Hey, le flow, attends, là. Non. Dieu donne la vie même le jour du sabbat. Puis c'est comme, à un moment donné, c'est comme, hey, c'est une vraie joke, tous ces commandements du sabbat-là. C'est une vraie blague. Alors, il va commencer son deuxième discours. Aujourd'hui, l'emphase était sur le miracle. Dans ma prochaine intervention, ça va être le discours qui va être étudié verset par verset. Là, ce que je vais faire avec vous, alors qu'on est sur le top de la montagne, on va glisser dans le discours, qui est le deuxième discours sur Jésus dans l'Évangile de Jean. On va glisser, puis je vais faire juste un petit recap de ce que Jésus a fait comme discours, mais là, il y a ses détracteurs, des détracteurs qui sont là. Il y a l'homme qui a été guéri, probablement, qui est là, ou il s'est peut-être poussé, parce que lui, il disait, hey, je veux pas être là, justement, je veux pas être où ce que ça brasse. On va regarder ce discours-là, puis on va apprendre plus sur ce discours-là dans mon autre message, qui n'est pas la semaine prochaine, là, mais quand je vais continuer les évangiles. La transition du sujet du sabbat, écoutez bien, il y a une transition ici. Remarquez la transition de qui Jésus dit de lui-même. Il va passer de la guérison de jambes mortes à la guérison de personnes mortes. Il va passer d'un mal qui est d'avoir un handicap à celui de périr éternellement en enfer. Il va vraiment faire les deux. Et donc, de la vie physique qui a été bonifiée à une vie éternelle qui va être wow, je veux dire, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de tristesse, plus de division, plus de colère, plus de conflit. Ça va être une place extraordinaire et ça va être un horreur éternel pour ceux qui n'ont pas juste l'handicap physique, mais l'handicap spirituel. Là, il va parler d'horreur éternelle. Puis je vous dis, je suis, en anglais, dit faberglasté. J'en brûle mes shorts. C'est incroyable ce que j'ai découvert d'un passage de l'Ancien Testament. On va finir avec ça. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. On ne parle plus ben d'handicap, là. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui seront dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Il est le Fils... OK, ça c'était au verset 28. On va arrêter là. Je fais quelques petites notes personnelles par rapport à ça. Ah oui? OK. Écoutez bien ça. Les jambes de l'homme sont passées de la mort à la vie. Vous êtes d'accord avec ça? C'était mort. Il n'y avait plus de nerfs qui passaient là. Peut-être même le sang ne circulait plus aussi bien. Le passage de la mort à la vie passe de ce qui est vivant à un membre, à la personne. Puis il dit, les morts vont entendre. On va entendre sa voix quand on va ressusciter. Jésus, il dit, mon Père, il me montre des choses, puis je vais vous en montrer afin que vous soyez tous dans l'étonnement. Puis l'étonnement, c'est comme, OK, là, tu viens de voir un miracle d'une jambe, je vais te montrer le miracle d'une résurrection. Au chapitre 11, il va ressusciter Lazare. Là, il y a une jambe qui a été ressuscitée, entre guillemets, mais je vais vous montrer des choses encore plus grandes. Un mort va ressusciter, puis encore plus grand que ça, c'est quand Jésus va dire qu'il va nous appeler par notre nom, puis il va dire Jean-Sébastien, Sonia, Stéphanie, Louise, Daniel, lève-toi. Vroom! Le gars, il a été écrasé par une chenille, là, tu sais, il est rendu un kilomètre de long. Il revient, tout, il sort de la tombe, il marche. Tu sais, c'est comme, hey, mon nom! Hey, wow! La Bible a dit que les morts vont ressusciter premièrement et nous serons tous ensemble enlevés dans les cieux. Donc, il va y avoir une résurrection corporelle puis il va nous parler. Là, c'est les morts qui vont entendre sa voix. Ça, c'est spécial. Jésus va nous étonner. Il dit, là, le Père, là, il a fait quelque chose, là, mais il va y avoir encore des choses encore plus grandes. Ça va vous étonner. Puis, savez-vous quoi? Si on est chrétien, on va être étonné parce qu'on va être une splendeur éternelle. Mais si on est en enfer, on va être une horreur éternelle, puis on va tellement être étonné d'être au lac de feu, d'avoir reçu les bienfaits, les bénédictions de Dieu, mais ne pas avoir accepté qui Jésus était et de ne pas l'avoir suivi. On va être étonné si on est au ciel. On va être étonné si on est dans le lac de feu. Puis il dit, Jésus dit que la voix de Christ va être suffisante pour nous faire sortir du tombeau. Dans Ézéchiel 37, et quand je vous dis ça, ça m'a... Oh, je suis allé me coucher hier soir, j'ai dit, OK, mon message est complet avec ce verset-là. Il est comme, wow, c'est comme, ah ouais. Vous savez que le verset qui dit, quand Jésus dit, ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu ressusciteront certains pour la vie éternelle, d'autres pour l'opprobre éternel, c'est-tu comme ça qu'il l'appelle? Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Là, il a dit au gars, fais pas ça, arrête de pécher, sinon tu vas avoir de quoi de pire. Moi, je pense que ce qui est pire, c'est qu'il aurait peut-être rejeté, ou peut-être qu'il est revenu après et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, j'ai... S'il suit juste un an et demi encore, là, parce qu'il est à un an et demi de son ministère, si le gars, il fait juste suivre un peu qu'est-ce qui se passe, là, l'actualité, là, son fil d'actualité Facebook, là, Instagram. Il l'accuse encore sur le sabbat. Il s'adresse à Jérusalem. On va aller voir ce qui se passe. Y a-t-il un live là-dessus? On va aller voir s'il y a un live là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il verrait? Il verrait que le principal motif d'accusation, c'était qu'il se prenait pour Dieu. Mais il était! Puis il a aidé, juste de dire, j'ai aidé parce que moi, je ne voulais pas me faire persécuter pour le jour du sabbat. J'ai aidé à ça. Je n'ai pas pris position pour Christ. Je n'ai pas suivi ce Seigneur-là. Je m'en suis lavé les mains. Écoutez bien, dans Ézéchiel 37, je vous le lis. Ça parle d'une prophétie future que Dieu va prendre la nation d'Israël puis il compare Israël à des ossements qui sont morts, qui n'ont plus de nerfs, qui n'ont plus de muscles sur les peaux, sur les os, qui ne sont plus rattachés ensemble avec des ligaments. Puis écoutez bien qu'est-ce que le prophète Ézéchiel reçoit comme vision. « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et autour, et voici... Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me répondit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici ces os. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous la chair, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est qui parle? C'est qui dit qu'il va avoir la peau et les os? C'est qui? C'est l'Éternel. Dans le passage d'Ézéchiel, c'est l'Éternel, afin qu'il sache que c'est l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, ce fut un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres, et je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, se tinrent sur leurs pieds, semblables à une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, lorsque je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Tout ce passage-là, c'est attribué à Dieu. Et il y a juste Dieu, pour un juif, il y a juste Dieu qui peut ressusciter. Même le Messie, quand il va venir, il ne ressuscitera pas les morts. Pour les juifs, il n'y avait pas de question que le Messie fasse ça, c'était juste Dieu qui pouvait le faire. Et là, Jésus dit, comme le Père donne la vie, il y a des gens qui naissent le jour du sabbat, ben moi, je donne la vie aussi, comme j'ai fait avec ces gens-là, puis aussi, je ressuscite les morts. Hey, c'était quelque chose complètement... Pourquoi c'est important, cette prophétie-là, puis je termine avec ça? C'est parce que dans le passage, Jean indique quand les gens entendront sa voix en parlant de Jésus, ils vont sortir de leur tombeau. Puis il y en a qui vont aller à la vie éternelle, puis d'autres à la honte éternelle. Puis là, c'est Jésus. Ça veut dire que Jean a reconnu que le passage d'Ézéchiel, c'était Jésus, c'est l'éternel Dieu, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Puis il va dire que si on écoute sa parole, sa bonne nouvelle, puis on l'accepte, on va être comme ces morts dans la vallée, on va entendre sa voix, on va se tenir debout. Jésus, il dit, si on entend sa parole, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, donc la parole est dite, et celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 11h36, j'ai terminé. Jésus, là, on écoute sa parole, puis on est comme le boiteux. Dieu nous pose la question, comment ça va? Tu veux-tu aller mieux? Je peux faire de quoi pour tes jambes si tu veux. Toi, si tu dors pas, toi, t'as tel problème, je peux faire quelque chose pour toi. Mais, pêche pas en rejetant Christ, en n'acceptant pas Christ comme ton sauveur, parce qu'il y a de quoi de pire que juste d'être malade physiquement, il y a d'être séparé éternellement d'avec Dieu. Un jour, on va être ressuscité, puis Jésus, le fait qu'il est mort, puis qu'il était enseveli, ça fait qu'il y a comme si tu tomberais dans une piscine, puis que tu accroches quelqu'un, puis tu tombes avec lui dans la piscine avec lui. Ben, Jésus, il nous a amenés avec lui dans sa crucifixion. Il nous a accrochés avec lui. La Bible a dit que tous les hommes sont morts avec lui quand lui est mort. Il nous a attirés avec lui. Et pour Dieu, on est considéré comme ayant été puni pour nos péchés. Puis, le troisième jour, Jésus est ressuscité et on est aussi reconnu comme ayant ressuscité. C'est comme s'il disait, tu peux sortir de la piscine. Tu as été jugé pour qu'est-ce que tu as fait. Viens-t'en. Donc là, on sort de la piscine, il nous sort, plein. Tu crois-tu ce que j'ai fait pour toi? Non. Ben, c'est correct. Tu ressuscites pareil, mon homme. Tu ressuscites ma fille. Mais le jugement qui est tombé sur Jésus ne peut pas être appliqué à toi. Donc, tu ressuscites pour la honte éternelle. C'est quelque chose, hein? Donc, finalement, le verset est important quand il dit « Les gens entendront la voix du Fils de l'homme et ils vont ressusciter. » Parce qu'avec ce verset-là, c'est ça qui fait le contact avec les os desséchés. Il y avait des os desséchés dans la vallée? Ben, le gars, il y avait des os desséchés, il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Fait qu'il y a vraiment un lien entre ce qui était mort et ce qui est vivant. La Bible a dit que quand on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, on est encore mort, bien que vivant. On est des croque-morts. Pas des croque-morts, pas des croque-morts. On est des morts vivants. Puis il dit que celui qui croit en lui... OK, dites-moi comment un mort peut croire en Jésus. Il dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Comment tu peux croire si t'es mort? Fait que ça veut dire que Jésus ici prend une illustration puis il nous explique que notre esprit spirituel est mort. Puis le mot mort veut dire séparé d'avec Dieu. Ça veut dire que mon esprit humain est séparé d'avec Dieu. Puis si je crois à la parole, qui Jésus est, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour nous donner la vie. Il a donné sa vie sur la croix. Il était enseveli et mort sur la croix pour être puni à notre place, puis ressuscité pour nous donner la vie. Si je crois ça, le texte me dit, si je crois ça, je vais passer de la mort à la vie, puis je ne viendrai jamais en jugement. Donc, le passage d'Ézéchiel était comme « wow ». Fait qu'un jour, Dieu il va prononcer notre nom. Il va nous dire, Jean-Sébastien, tu voulais aller mieux, hein? Tu t'étais tourné vers moi, pas juste pour avoir un meilleur sommeil, pour finir ta vie pas trop avec de l'eau dans ta barre, tu sais, t'as essayé d'aller mieux. Mais au-delà de ça, tu savais que si c'était pour aller mal, de toute façon, tu t'es confié en Jésus. Tu as cru qu'est ce qu'il avait fait pour toi, puis tu as marché avec lui. Tu l'as suivi. Tu peux sortir de la tombe. Ouais, mais Georgette, elle aussi, elle va être étonnée, mais c'est pour un autre moment. Elle aussi, elle va être étonnée parce que ce que le Père fait étonne toujours. Mais je suis content que tu l'aies fait. Bienvenue à la maison. En passant, plus besoin de dormir. La Bible a dit qu'on n'aura plus besoin de dormir. Ouais! On n'aura plus besoin de dormir. On va finir par un mot de prière. L'enregistrement aussi, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook, sur le site aussi. Vous écoutez ce message-là, puis vous dites, est-ce que je suis mort ou est-ce que je suis vivant dans la dernière partie? Eh bien, à vous de savoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme cet homme-là, il a été béni. Il n'a pas été béni tout le long de sa vie, mais à un moment donné, il pouvait même être maudit. Peut-être qu'il était puni parce qu'il avait un handicap. On ne sait pas. Mais il a été béni à un certain moment. Il a rencontré Jésus. Puis il avait cette décision-là à prendre. Est-ce que je suis mort ou est-ce que je suis vivant? La Bible a dit que nous sommes tous morts dans nos fautes. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'aime tellement qu'il a pris sur lui le poids de tes péchés, comme si c'était lui qui avait fait la transgression à ta place. Il a été puni sur la croix, il a versé son sang. Et il offre au Père de payer ta rançon, de payer ta dette, pour que le jour que tu meurs, tu n'ailles pas en jugement, mais tu sois passé de la mort à la vie, puis tu ne sois pas jugé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si on pense qu'on est des bonnes personnes puis que Dieu peut nous sauver nous-mêmes parce qu'on n'est pas si peu, on est des bons chrétiens, entre guillemets, ben, Jésus est mort pour rien. Nous sommes tous condamnés et condamnables. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est prêt à pardonner complètement nos péchés puis nous donner la vie éternelle comme un cadeau gratuit si on croit qu'il est Dieu venu vivre sur terre puis qui a fait la transaction de payer pour nos péchés, puis ressusciter après, pour qu'il puisse nous donner la résurrection. Alors, si tu veux accepter Jésus, même à WVille, là, vous pouvez le faire à voix haute. Même si vous l'avez déjà fait, vous ne le faites pas à nouveau. Mais vous accompagnez une personne qui peut-être le fait pour la première fois. Donc, on va faire cette prière-là, et en geste de courtoisie, on va aussi le faire, ceux qui l'ont déjà fait. Encore une fois, pas pour le refaire, c'est pas une vaine redite. C'est juste par courtoisie pour ceux qui seraient aussi parmi nous puis qui voudraient faire ce geste-là. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu as le pouvoir de faire vivre et de condamner. Tu es le juge de l'univers. Le Père t'a donné ce rôle afin de pouvoir sauver et de condamner. Je crois que tu as été condamné à ma place pour que je ne sois pas condamné. Merci pour la croix. Merci d'être ressuscité des morts. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon. Amen. Je vais continuer seul. Seigneur, peut-être qu'une personne sur enregistrement ou ici même, ou à WVille, a fait cette prière-là pour la première fois, compris qu'est-ce que Jésus avait fait, qui il était. Je te prie de les bénir, Seigneur Dieu, et que le Saint-Esprit vienne en eux pour témoigner de qui Jésus est et ce qu'il peut faire pour eux. Donne-nous à chacun d'entre nous qui avons été guéris spirituellement de ne pas faire comme les 9 qui avaient été guéris de la lèpre. Un seul était venu montrer sa reconnaissance, mais tu avais quand même guéri les 10. Tu sais. Donne-nous un cœur reconnaissant. Puis des fois, oui, s'identifier comme chrétien, ça va vouloir dire de ne pas être populaire pour ce monde. Donne-nous le courage, Seigneur Dieu, de nous tenir pour la foi qu'on croit être vraie. Dans un monde qui t'a abandonné, Seigneur, crucifié. Merci pour ce temps qu'on a eu, puis je te prie de bénir le reste de la communion. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc.